peut-être qu'on peut commencer avec la définition de la multitude. Vous dites dans le livre, la multitude, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la masse non plus, et ce n'est pas non plus la classe ouvrière, donc le prolétariat. Alors, c'est quoi exactement la multitude?
Donc, on part du plus simple, si vous voulez, non? C'est la multitude, c'est quelque chose qui est plus large en tant que concept de celui des classes ouvrières. C'est plus large parce que, pas parce que la classe ouvrière n'a pas été une classe hégémonique, non, mais parce que le travail même est changé. C'est-à-dire que la classe ouvrière était celle qui était monopolisée, pour ainsi dire, le travail productif, le travail producteur de richesses. Et aujourd'hui, nous, on croit, sur la base d'une analyse qui est de plus en plus répandue, non, que la formation de la richesse, donc l'expression de la valeur humaine qu'il y a dans les produits, dans le rapport entre homme et nature, voilà, est quelque chose qui dépend de plus en plus du travail intellectuel, du travail des services, du travail effectif, du travail des relations. C'est-à-dire que de ce point de vue, nous on ne renie pas le concept des classes ouvrières, mais on dit que le concept de la classe, de l'ensemble des travailleurs, est un concept qui est absolument plus large, qui occupe désormais de plus en plus la société entière. Et la société qui produit de la valeur, et la société dans ses communications, dans ses relations, dans le travail linguistique, qui est fait de plus en plus linguistique, ça signifie un travail qui passe toujours à travers le cerveau. Donc de ce point de vue, par exemple, il n'est pas possible calculer la valeur du travail simplement sur la base du temps du travail. C'est tout le temps de la vie qui devient de plus en plus un travail qui est impliqué dans la production, dans la production qui n'est pas seulement production de marchandises, mais c'est production de vie. De ce point de vue, on parle justement d'un tissu biopolitique, non, qui désormais doit être celui que l'analyse critique, l'analyse révolutionnaire doit considérer. Quand on dit en plus que la multitude n'est pas la masse, on critique ce concept de Marx, qui est un concept lui aussi extrêmement important, parce que c'était la masse des travailleurs, la masse de la valeur abstraite, non, on disait, non, cette masse indifférenciée, non, qui était la base, non, de la grande production industrielle moderne. Aujourd'hui, nous, on dit que la production est liée fondamentalement à ce qui sont l'expression des singularités. C'est-à-dire que dans le travail, on n'a plus besoin seulement d'exprimer de la fatigue physique, de la répétition des actes comme on faisait dans la vieille usine, mais on a surtout la nécessité d'exprimer des moments de force invention, des événements qui modifient continuellement la réalité, et que c'est seulement dans la communication et dans la relation entre différentes singularités que la production et la multitude ont leur base réelle, matérielle. Voilà. En plus, on dit que la multitude n'est pas peuple, parce que le peuple aussi, c'est un concept qui est complètement abstrait et transcendant. C'est-à-dire le peuple n'est pas simplement l'unité, non, organique des gens. Le peuple est quelque chose qui est déterminé par l'État. C'était l'État qui a créé le peuple. C'est pas... Il y a eu des moments révolutionnaires dans lesquels le peuple s'exprimait, mais il s'exprimait dans des formes qui étaient absolument différentes de ce qui est le concept de peuple. Le concept de peuple qui est lié au concept de représentation, non? Mais la représentation du peuple. Et quand vous dites représentation du peuple, c'est jamais la représentation des singularités, mais c'est toujours la représentation de l'État. Non? Et voilà. Et donc, la critique envers le concept de peuple, en tant que concept fondamental de la science politique de l'État de l'âge moderne, elle dérive de ça. Donc, qu'est-ce que c'est la multitude? La multitude, c'est une multiplicité des singularités qui constituent le monde. Qui travaille à la constitution continue du monde, dans leur singularité, et qui sont exploités pour ça. dans cette action. Mais c'est justement donc le concept des multitudes est un concept qui est plus élargi que celui des classes ouvrières. C'est un concept qui se coupe de la singularité, de la différence des gens qui travaillent, qui vivent et qui vivent dans la relation, dans la coopération sociale. Et en troisième lieu, c'est l'espoir de l'expression et l'organisation de l'expression d'une puissance politique de ces gens-là en tant que multitude. Comme le concept des classes ouvrières était un concept qui devenait un concept politique, était un concept sociologique, mais qui devenait politique à mesure que la conscience rentrait. Et il y a une autre chose, étant donné que le travail devient de plus en plus un travail immatériel, mais quand on dit immatériel, on dit toujours une bêtise, non? Parce que le travail est toujours matériel, non? Mais l'utilisation du terme immatériel, c'était surtout, non? Comme par exemple a expliqué très bien Gortz, non? Dans son dernier bouquin, non? Sur l'immatériel, et comme ça, s'explique surtout parce que quand on dit immatériel, on trouve la différence, non? De ce que le vieux concept complètement lourde, non, des classes ouvrières. Nous, on est très intéressés à trouver vraiment le travail affectif, par exemple, le travail des services, le travail des soins, toutes les choses qui, par exemple, étaient une fois considérées spécifiques des femmes, non, voilà, dans ces concepts, non, des multitudes, des singularités, voilà. Et donc, il y a cette... On essaye de pousser, non, le terme et la réalité qui est compris, non, à ce qui est vraiment la force, non, qui aujourd'hui peut être exprimée.
Dans le livre vous-même, vous écrivez que ce nouveau concept est encore embryonnaire parce que la classe ouvrière au niveau mondial, si on regarde la Chine, il y a en fait encore un processus de prolétarisation en cours. Pourquoi vous dites quand même que ce nouveau concept est déjà primordial, hégémonique ?
Oui, ça c'est un peu, si vous voulez, sur ça on suit un peu le schéma, non, qui avait suivi Marx dans sa définition de classe ouvrière. C'est-à-dire quand Marx parle de la classe ouvrière, dans la première moitié du 19e siècle, il parle d'une force productive qui est en train de se poser comme hégémonique, non, sur tout le travail. Et il prévoit, non, que cette hégémonie va se généraliser. Nous, on pense effectivement que la multitude, au mieux si vous voulez, que la production basée sur le general intellect, non, voilà, comme ça, peut devenir vraiment dans une manière tendancielle la forme tout à fait prédominante dans la production et donc, non, dans l'exploitation. Et donc, le tissu dans lequel, autour duquel, doit se développer la résistance. Et tout ça, c'est évident, il faut le faire avec beaucoup de prudence, non? Et comme, par exemple, autour du concept d'État-nation, même, parce que quand on dit que l'État-nation est en train de périr, non? En train il faut faire attention, on n'est pas exagéré, non? Parce qu'il y a toujours, non, d'un point de vue politique. Mais notre travail est un travail essentiellement philosophique, donc un travail dans lequel on pose des schémas à l'intérieur desquels il faut concrétiser les choses. On ne prétend pas d'avoir fait la Bible. Non, c'est seulement vraiment la présentation des schémas qui nous permet de raisonner, non, sur le présent et sur le futur. Non, voilà. Avec, je crois, une seule certitude, voilà, que la vieille situation ne reviendra plus. Que c'est désormais, ça peut être réactionnaire vraiment, comme penser que la classe ouvrière sera hégémonique, que le travail pourra redevenir ce qui a été pendant la période fordiste, et que le welfare state pourra, dans la même figure, non, revenir et tout ça. Tout ça est lié à certaines périodes historiques, qui étaient une période historique dans laquelle les capitalistes et la classe ouvrière ont lutté, dans laquelle le capitalisme a exprimé le fascisme dans la forme qu'on a connue, la classe ouvrière et les forces prolétaires ont détruit ça, non, et ont proposé, non, une nouvelle alliance, non, qui a permis, c'est qui était préfiguré par le New Deal américain, qui a préfiguré toute une période historique. Une période historique qui était cassée par les luttes ouvrières. C'est ça qui est fondamental dans notre discours. Nous, on n'a jamais dit, non, que l'Empire, c'était un processus linéaire. L'Empire, c'est une véritable rupture qui est déterminée par cette dialectique profonde qui est des années 60 aux années 70, a vraiment caractérisé tout le monde occidental, et pas seulement le monde occidental, parce que les luttes de libération des pays sous-développés et des pays colonisés ont déterminé des processus analogues.
Hier, vous avez donné l'exemple de la situation dans le monde mode ou textile en France. Mais c'est pour comprendre, là vous dites qu'en fait, tout le monde, du designer jusqu'à le travailleur même, fait partie de la multitude.
Je vous répète ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire nous, à un certain point, on s'est trouvé, pour des raisons complètement, moi j'étais exilé à Paris, non, j'ai cherché du travail, non, parce que comme tout le monde a besoin d'être, pour vivre, il faut travailler, non, et donc, j'ai fait ce sociologue, non, et ils m'ont demandé de voir si en France, si dans l'île de France, il y avait des formes d'organisation du travail analogues à ce qui était en train de s'exprimer en Italie, dans le nord-est surtout, c'est-à-dire de la région de laquelle je viens, non, et dans laquelle j'avais suivi pendant les années 70, non, cette évolution, non, des petites usines, de cet circuit complètement coopératif, de zones, comme ça. Alors ils m'ont demandé, mais ici, dans ce monde de la mode, dans lequel il n'y a pas les grandes entreprises textiles et d'habillement du nord de la France, était complètement en crise, et le rôle fondamental, central, d'un point de vue économique, était assumé par cette organisation du travail qui s'appelle le sentier, non? Et c'était à Paris, non, parce que c'est lié à une série de routes, non, à l'intérieur de la ville, non, dans laquelle il y a la centralisation réelle, non, mais dans des formes extrêmement dynamiques, extrêmement ouvertes, comme ça. Et là, on s'est aperçu, naturellement, on a fait la première recherche sur les travailleurs, non, qui travaillait pour cette, qui produisait toute la marchandise, les marchandises, les produits, non, pour cette pyramide qui voyait le sentier, non, ces groupes de capitalistes au centre. Et là, il y avait 250 000 personnes, non, qui étaient plus ou moins immigrées, non, immigrées avant, ou immigrées yougoslaves, après immigrées chinois, après immigrées avec des couches et tout ça, bon, ce qu'on fait les gestes sociologiques, et qui avait ces petites communautés, non, qui travaillaient l'un l'autre, après avec des autres pyramides qui s'ouvraient, des processus d'exploitation horrible, non, qui se passait dedans. Bon. Tout ça, mais c'était presque naturel, voir ça, non, presque obvious, vraiment évident, voilà, comme ça. Quand on a terminé ces choses-là, on s'est dit, mais merde, ici il y a quelque chose qui manque, parce que dans tout ce travail, c'est un travail de qualité, comme ça, comment il sort, c'est toute cette qualité, et après toute cette commercialisation, et après toute cette publicité, et après toutes ces choses qu'il y a autour. Et alors on s'est aperçu qu'à partir du sentier, s'ouvrait une autre pyramide, non, qui était faite par des gens designers qui venaient des écoles. Des écoles, ils allaient, ces industriels, ils allaient dans les écoles de design, d'art, et tout ça, apprendre les gens, non, pour les faire travailler dans une manière précaire, pour eux, comme ça. On s'est aperçu qu'il y avait un processus d'informatisation énorme dans lequel il y avait des dizaines de milliers de gens qui travaillaient et qui étaient vraiment des gens techniciens qui travaillaient dans une manière précaire. On s'est aperçu qu'il y avait toute une autre série de gens qui travaillaient à la publicité. Mais là aussi, dans des boîtes absolument incroyables, non, on trouvait 200 contrats par jour. dans certaines boîtes, contrat individuel, que c'est vraiment la fragmentation, et la dissipation vraiment comme ça de toute unité de travail. Mais d'autre part, on a commencé à se percevoir que ces gens, ils étaient dans des fortes relations entre eux, que les gens précaires constituaient des réseaux extrêmement forts, que toute une série d'institutions sociales, les musées, les cinémathèques, les vidéothèques et tout ça, étaient fondamentaux dans leur travail. Que donc il y avait un capital social, non ? Qui était la forme même d'une grande métropole culturellement extrêmement développée comme Paris, qui était à la base fondamentale de ce travail. Et c'était du travail précaire d'un côté et presque gratuite de l'autre côté, parce que c'était des valeurs sociaux, non ? Qui étaient prises et ramenées dans ces processus. Et si on regardait d'un point de vue salarial, je dois dire que les immigrés étaient presque plus riches de cette force travail immatérielle, non, intellectuelle et précaire, et complètement précarisée, qui était en haut. Après, à partir de cette force travail immatérielle qui travaillait pour la mode, on s'est aperçu que ces gens passaient, par exemple, je ne sais pas, des designers qui passaient de la mode au studio des architectes, que les informaticiens travaillaient dans tout, et on s'est aperçu qu'il existait ce qu'on a appelé un bassin de travail immatériel, un BIT, non, qui est un BTI, voilà, qui était énorme dans une ville comme Paris. Et après, on a trouvé des matériaux analogues sur New York, on a trouvé en Italie, il y a sur Milan, non, des études désormais qui sont faites à travers les centres sociaux, à travers les groupes d'universitaires qui sont liés à ça, des études formidables sur ça. Ce sont les études et l'initiative qui a amené à Saint-Précaire, à la grande manif de précaires du 1er mai, à laquelle il y avait 100 000 personnes à Milan. Autour de la statue, non, de Saint-Précaire, non. Voilà. Et c'est ça, donc, l'idée du travail immatériel, vous comprenez. Alors, il y a beaucoup de monde qui nous dit, mais, quand tu as raconté ça, non, bon, c'est vrai, mais, là, ils ne sont pas des ouvriers. C'est pas vrai, ils sont des ouvriers, ils sont des ouvriers qui n'ont rien plus à faire avec la classe ouvrière en tant que telle. Parce qu'ils sont normalement des enfants d'ouvriers. Mais si tu leur dis, tu es un ouvrier, tu dis, non, moi je ne suis pas un ouvrier. Moi je suis un travailleur précaire, que je n'ai rien à faire avec l'usine. Je ne suis jamais entré à l'usine. Mais le grand pourcentage du travail productif aujourd'hui est celui-là. Et ça, ce sont les nouveaux sujets, non ? Et regardez, nous, on les avait découverts, la première couche de ça, on l'a découvert en Italie dans les années 60. Moi, j'étais condamné pour, par exemple, une des dizaines des choses pour lesquelles j'étais condamné. C'était parce qu'une fois, nous avons amené devant Alfa Romeo, non, qui était Alfa Romeo, c'était la grande usine d'automobile, on a amené des gens comme ça qui demandaient du travail, non. Et les ouvriers, non, ils ont dit, non, ici il y a la crise et nous on travaillera, et on travaillera aussi le samedi. Et nous on a dit, mais le samedi, chers amis, ici il faut faire entrer des autres gens, non, pour travailler, non, parce que nous on doit défendre l'usine, etc. Bon, là il y a eu une bagarre terrible, non, parce que c'était nous, on a amené 5000 personnes, hein, là, devant l'usine, non, et les ouvriers étaient, c'était une bagarre terrible, et eux, ils ont confirmé ça. Et alors, vous comprenez là qu'on naît l'extrémisme, non, alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont dit, oh, ok, vous voulez travailler tout seul, vous en foutez des autres gens, bon, samedi prochain, vous ne travaillerez pas. Et ils ont fait sauter toute l'énergie électrique autour de l'usine. Non. C'est ça les mécanismes, non, et le problème c'est lui, justement, étant donné que la classe ouvrière n'arrive pas à unifier toute la force travail, il faut réussir à l'unifier autour des nouvelles initiatives, des nouveaux concepts. Le concept des multitudes, de ce point de vue, c'est ça. C'est pas flou. La multitude peut comprendre la classe ouvrière.
Et c'est pour ça que la multitude reste un concept de classe.
Oui, reste un concept de classe, même si, justement, un concept de classe non étroite. Si vous considérez le concept de classe comme un concept de l'ensemble des travailleurs, non, qui produit revenus pour tout le monde, et qui sont la base sociale de la reproduction de la vie, le concept biopolitique, comme ça, ça reste un concept de classe, mais il n'est plus le concept de classe ouvrière.
C'est plutôt, moi j'ai un autre exemple en tête, oui. C'est la question du Venezuela, qui bon, je pense dans notre mouvement quand même assez comme exemplaire, presque des gens sont très intrigués par ce qui se passe pour le moment au Venezuela, par la politique de Chavez, mais je trouve ça très difficile à rentrer ça dans le concept de multitude, je trouve ça plutôt qu'il y a une contradiction là.
Moi, je suis complètement convaincu qu'il existe une contradiction. Pas Chavez, qui, au contraire, il a dit que le livre de Arte Negri, c'est la ligne sur laquelle il veut, il veut construire. Moi, j'ai quelques doutes à propos. Mais je crois qu'il y a un effet. Je dédoute pourquoi. Parce que la rupture sociale est extrêmement forte et la capacité de Chavez et de ses copains de transformer cette masse d'exclus et des déshérités, non, comme ça vraiment, dans une force travail organisée, c'est vraiment très faible. J'admire jusqu'au fond, non, l'effort qu'il a fait de distribuer les dividendes, l'argent du pétrole dans les favelas, non, vénézuéliennes. Mais je pense que le travail de construction, non, d'un véritable pays libre, c'est beaucoup plus fort. J'ai un peu peur, comme beaucoup d'amis qui sont tout à fait à côté de Chavez, on a un peu peur d'un populisme de gauche, non, militarisé en plus, non, qui est très dangereux. Voilà. Mais ça, c'est on est complètement à côté, parce que certaines fois on fait des critiques comme ça, même les vénézuéliennes, il reste un peu mais je crois que ce sont des critiques vraiment de frère à frère. Voilà.
Oui. Non, mais la question est pour moi plutôt et c'est une critique qu'on vous fait parfois, c'est de dire, voilà, en fait, quand on... C'est surtout à partir de l'Empire, la lutte que les gens au Venezuela font, en fait, ça ne vaut plus la peine.
Non, c'est pas vrai.
Oui, c'est pour ça que je le demande.
Absolument pas. Au contraire, parce que la possibilité que Chavez et les démocrates... les véritables démocrates vénézuéliennes, comme ceux du Brésil, ceux de l'Argentine, ceux de la Bolivie, non ? Voilà. La seule possibilité qu'ils ont, c'est sortir de la dépendance. C'est-à-dire que le concept d'empire, c'est aussi, d'un point de vue, si vous voulez, des rapports internationaux, non ? C'est un concept dans lequel on dit, attention, le capital n'est plus simplement... Le capital central est un capital global et collectif qui organise le monde. Dans cette organisation du monde, c'est vrai que c'est surtout aux États-Unis et en Europe qu'il y a les centres du capital. Mais attention, ce n'est pas comme une fois dans laquelle, par exemple, à travers l'échange inégal, l'exploitation des pays pauvres était servée à maintenir, je ne sais pas, le welfare state en France ou en Belgique, pour parler de deux états coloniaux, non, classiques, voilà. Non, c'est pas ça, parce qu'aujourd'hui, vous trouvez les gratte-ciel et donc les centres des dominations capitalistes, vous les trouvez à Paris, comme et à New York ou à Los Angeles, comme vous les trouvez à Brasilia, non à Brasilia, mais à Rio de Janeiro, à São Paulo, à Caracas, tout ça. Et en bas, de la même façon, aussi à Los Angeles qu'à Caracas ou à Paris ou à Rio, vous avez les pauvres. Et les pauvres font part de la multitude. Ça, c'est un premier concept. Donc, le concept même du troisième monde, il faut commencer à critiquer, parce qu'il y a deux mondes. il y a le monde du capital et des riches, et ces riches sont tous unifiés au niveau mondial, sauf des petites bagarres qu'ils font autour de l'Irak, ou choses comme ça, mais ils sont profondément unifiés au niveau mondial, dans un marché qui est un marché mondial, dans lequel ils s'échangent. Le riche de Rio, il va pas à la bourse de Rio, s'il passe à travers la bourse de Rio, c'est pour arriver à la bourse de New York. Et c'est là qu'on fait le jeu, non? Et le commandement n'est pas fait par les États-Unis seulement sur le Venezuela, mais est fait pour le marché du pétrole, est fait par le FMI, est fait par toutes les grandes organisations internationales dans lesquelles la responsabilité de la Belgique et de la France sont aussi fortes que celles des États-Unis. Voilà. Donc, il y a, en premier lieu, cette unification mondiale qui a enlevé la dépendance et qui a mis tous ces pays dans une relation d'interdépendance. En deuxième lieu, justement, à travers ce concept de multitude qui nous permet d'identifier la singularité, non ? Nous pouvons, par exemple, commencer à comprendre qu'est-ce que c'est la paysannerie là-bas. J'ai eu de longues contacts dernièrement avec les gens du mouvement de Saint-Terre au Brésil, qui c'est un mouvement vraiment impressionnant, non, du point de vue des quantités et des qualités. Voilà. Mais là, les gens, ils sont absolument conscients que le problème, ce n'est plus, par exemple, non, la vieille revendication de la propriété de la terre, non. C'est le problème d'insérer de la force immatérielle, d'élever le niveau intellectuel et des besoins de ces gens, et que la seule possibilité qu'ils ont, pas seulement de s'émanciper, mais de se libérer, passe à travers ça. Donc le problème fondamental, ce sont les écoles. Le problème fondamental, c'est la possibilité de conduire dans une manière informatique, de plus en plus informatiser la grande agriculture, non, de ces pays-là. Et d'autre part, d'exciter les esprits à identifier des produits qui soient des produits spécifiques, capables, non, comme on fait le raisin très bon, non, dans certaines régions de la France. Comme ça, il faut réussir à faire des vaches particulièrement bien, non, ou de la soja particulièrement bien, non, dans certaines régions du Brésil. Et c'est ce jeu-là qui est fondamental. C'est ça, c'est la multitude.
Oui, mais si on prend maintenant, comme par exemple, des pays comme la Belgique ou l'Hollande, où le mode de production immatériel est assez grande, on voit que c'est justement dans ces pays-là maintenant, c'est justement dans ces pays-là qu'on voit que c'est les mouvements traditionnels comme le syndicat qui prennent le devant de la lutte, comme on voit aujourd'hui en Hollande par exemple, où ça fait depuis des dizaines d'années qu'il n'y a plus eu un mouvement comme on voit aujourd'hui en Hollande, et que c'est justement ce secteur traditionnel de travailleurs et même des dockers qui a pris le devant de la lutte.
Tout ce qui est la production de lutte, non, c'est et bien en soi, non. Voilà, c'est pas quelque chose sur laquelle si j'étais hollandais, je serais été vraiment là dans le cortège, non, sans doute. Et c'est vrai que le niveau d'organisation, non, qu'il y a en Hollande, c'est un niveau d'organisation qui passe encore, non, à travers les syndicats. Moi, si j'étais en Hollande, j'essaierais d'aller voir un peu la composition de classe de ces dockers, comment travaillent ces dockers, parce que les dockers sont pas les dockers d'une fois. Hein.
Non.
Les dockers sont normalement des techniciens désormais, non? Et ils travaillent sur l'ordinateur pour déplacer la grue ici et là. C'est-à-dire la transformation du travail. Moi, j'ai vu un peu ce qui se passe dans le plus grand port container qu'il y a sur la Méditerranée à Gioia Tauro, en Calabre. C'est un port qui, au-delà du fait qu'il est contrôlé par la mafia, il est d'un point de vue technologique absolument un des points les plus... C'est le plus grand port de containers de Méditerranée. Il a battu Marseille, Barcelone et tout ça. Et c'est un port qui est complètement automatisé. La force de travail que vous trouvez là-dedans, c'est... En Italie, il y a eu maintenant une lutte formidable à Melfi. C'était l'usine modèle de la Fiat, c'est-à-dire une usine complètement automatisée, dans laquelle les gens qui étaient une jeune fabrique, hein, une jeune usine, ils ont fait cette rébellion à outrance, non, grève à outrance, jusqu'à quand le patron n'a pas cédé. La lutte était sur le temps de travail, non, sur le tournage, non. Ils ne voulaient plus travailler la nuit, ils ne voulaient plus avoir toutes ces choses-là. Mais là aussi, il y avait les syndicats derrière, mais la lutte était conduite dans une manière complètement autonome à partir de ceux qui sont les nouvelles conditions du travail. Ma plus grande espoir, c'est que les syndicats arrivent à comprendre ça. Que les syndicats arrivent à comprendre cette transformation du travail, ouais. Qui arrive par exemple à organiser les précaires. Pourquoi le syndicat n'organise pas le précaire? Pourquoi le syndicat n'émet pas en premier lieu devant ceux qui sont les phénomènes, par exemple, de précarisation, c'est-à-dire de flexibilité extrêmement aiguë, non, dans des mobilités spatiales, comme ça, pourquoi ils ne considèrent pas que le revenu garanti, le revenu de citoyenneté est fondamental? Pourquoi ils n'estampent pas, ils n'élargissent pas ces revendications aux femmes au foyer, aux ILED, non? Tout le travail qui est un travail, désormais un travail social. Pourquoi cette référence sociale n'a pas la capacité de devenir... Parce qu'on peut avoir des grandes luttes, mais même des grandes luttes corporatives.
Oui.
Des défenses, donc, du poste de travail et son salaire, et c'est fini. Il ne faut pas être léniniste hein, pour reconnaître qu'il existe des luttes corporatives et tout ça. Il y a ça. Il faut être, comme toujours, non, très intelligent, non, pour comprendre, non, l'une chose et l'autre. La politique est faite comme ça, mais ce n'est pas mon métier, non. Mais pour moi, la chose importante, c'est arriver à un concept unitaire, non, unitaire dans la différence, des différences. Voilà. Et cette unité ne doit pas être la grande armée, non, des travailleurs. Non, je m'en fous des grandes armées des travailleurs. Je veux vraiment une organisation qui soit capable d'être de suivre la multiplicité, d'avoir dedans les singularités, de se poser en relation de ce point de vue, les modèles de lutte qui ont été organisés, Gênes, au Seattle et tout ça, ils sont d'un point de vue organisationnel beaucoup plus importants, je crois, que les grèves de Docker. Voilà.
Mais dans votre livre, c'est autre chose, dans votre livre, ça nous a remarqué, c'est aussi parce que nous avons eu une expérience de travailler avec des groupes d'immigration, mais vous donnez un grand poids particulier, surtout en Europe, à l'immigration. Comment vous expliquez ça
Écoutez, moi je pense que l'immigration soit une des formes les plus évidentes, non, dans lesquelles le marché mondial, non, s'explique. Voilà. Et qu'une des revendications les plus fortes que nous on peut soutenir, c'est vraiment que les frontières, non, disparaissent, non, parce qu'en plus vous savez mieux que moi, non, que où les frontières disparaissent, où cet jeu, non, de dumping continu, non, de délocalisation continue va se déterminer, non. Donc les frontières à ce point sont devenues vraiment des ennemis des travailleurs, de tous les travailleurs, non, de la multitude. Et les immigrés qui arrivent, non, ils sont avant tout des gens qui expriment une grande puissance, non, parce que avoir le courage de partir du Centrafrique et arriver à travers cette cimetière qui est devenue la Méditerranée, non, arriver en Europe ou traverser en venant de l'Est, non, comme ça, c'est vraiment c'est quelque chose d'héroïque. Non, j'ai connu les immigrations en Italie, non, qu'il y a eu dans les années 50, 60, ont été quelque chose de vraiment biblique, non ? Voilà, comme ça, sont été des choses qui ont coûté d'un point de vue humain dans une manière terrible. Mais elles étaient constructives. On n'aurait jamais vu les luttes qu'on a eues à Turin, à Milan, à Venise, dans les années 70, s'il n'y avait pas derrière, non, cette fondamentale immigration, non, cette fondamentale nouveauté dans la composition, non, matérielle de la classe ouvrière. Première chose. Deuxième chose. Moi, je suis à faveur, vraiment, pas seulement de ces mouvements, mais ce sont des mouvements biopolitiques, non? Donc, ils sont des mouvements qui posent le problème du métissage, le problème de la compénétration de culture. Mm-hmm. Et ça, c'est une autre chose fondamentale. Et cet métissage et compénétration de culture, c'est un élément de force dans l'imagination même de la vie. Et ça, c'est un autre élément qui est un élément ensemble économique et politique, non ? Qui faut souligner fortement.
Un concept qui joue aussi un grand rôle dans le livre Empire, surtout ici, dans la multitude, c'est le concept de l'exode. Est-ce que ça a un lien avec le fait que...
Oui, l'exode, je pense que les immigrés interprètent certains exodes, non ? Ça, c'est évident. Les mouvements d'immigration sont vraiment très très importants de ce point de vue, mais le problème de l'exode, le concept d'exode, c'est plus un concept politique, non ? C'est un concept qui dit nous, on n'est plus des gens qui veulent vivre dans cette société. Voilà. Un autre monde est possible. Donc nous, on exode vers un autre monde possible. Voilà. Cette idée d'exode est une idée de prise des distances, non, des prises de distance des institutions, de la représentation classique et traditionnelle, de la répétition des formes de contrôle. Comme ça, c'est une idée qui est au fond, je crois, dans les mouvements à partir du 68. Voilà. C'est vraiment c'est une arme, voilà, l'exode, comme ça. Et c'est l'exode vers vraiment une nouvelle cité. Et c'est-à-dire que l'utopie aujourd'hui doit vivre dans la réalité et dans la conscience des gens, voilà. Parce que justement, ce n'est plus une utopie, c'est quelque chose de possible, non ? Mm-hmm. Il y a dans le concept d'exode, il y a d'un côté l'utopie et d'autre côté ce concept de puissance et possibilité. Voilà, et qui est un peu, pour ainsi dire, c'est pas le contenu, mais c'est la forme, non ? Dans laquelle le procès politique aujourd'hui peut devenir important, devenir s'organiser.
Donc votre livre, c'est aussi un appel à l'exode.
Oui.
Mais parce que vous avez aussi un petit chapitre sur les Tutti Bianchi.
Oui.
Qui sont en fait exemplaires pour cette nouvelle forme d'organisation. Ça peut être vu comme l'avant-garde de la multitude, si c'est peut-être un peu un anomalie.
Non, ce sont des exemples de laboratoire, ce n'est pas des avant-gardes. Ouais. Non, là, il faut faire attention, parce qu'on accuse toujours de gens qui font des expériences d'être des avant-gardes et tout ça. Et que c'est vrai et faux en même temps, non ? C'est vrai parce que certaines fois, ces gens, ils se sentent avant-garde, non ? Ils ont des comportements, certaines fois, qui sont aussi assez durs. Mais, étant dit ça, c'est pour moi la chose importante de Tutti Bianchi, qui aujourd'hui s'appelle désobéissante, ou choses comme ça, c'est le fait qu'ils ont maintenu, non, le long du temps, non, certaines capacités, non, vraiment, de représenter des problèmes et de donner des formes d'organisation adéquates. Ceux qui ont fait les Tutti Bianchi à Gênes étaient extrêmement importants, parce qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas aller à un affrontement armé, comme il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui voulaient faire. Ils ont compris qu'il fallait construire un consensus Et ils ont eu le courage de se présenter dans une manière ironique comme des victimes. C'était vraiment ça, c'était un jeu de grande intelligence, qui en partie ils avaient déjà appris à Seattle. Mm. Voilà. Parce que beaucoup de gens de tout est bien qui étaient achetés à Seattle dans les manifs, et ils avaient compris ça. Après, c'est l'histoire. Et après, cette idée, par exemple, de présenter le problème, pourquoi tout est bien, pourquoi white overalls, parce que on est transparent. Personne ne voit. Nous ne voit pas, non? Alors, ils se présentaient dans les théâtres, par exemple, non? En disant, nous, on est les précaires, non? Ceux qui n'existent pas dans ces sociétés, non? Les invisibles. Voilà. C'était tout ce concept, non, travaillé dans une manière symbolique, mais qui n'était pas seulement une manière symbolique ou situationniste, non, de présenter les problèmes. C'était ça, et en plus c'était la référence à des grands problèmes sociaux et la continuité d'organisation sur ce terrain.
Ce que nous voyons en Belgique, mais c'est beaucoup plus réduit évidemment, c'est qu'il y a quelques noyaux de gens qui reprennent un peu, qui fonctionnent un peu de la même façon, qui se sont surtout retirés dans des squats, mais qui sont vraiment... le problème que moi j'ai avec ça, c'est qu'ils se mettent vraiment dans la marginalité, non seulement de la société, mais aussi même du mouvement social qui se déroule. Je ne peux pas comparer, j'étais à Gênes, mais bon, je n'ai pas suivi l'Italie d'assez près par après. Mais bon, c'est ce que je vois, je ne sais pas comment vous voyez ça, parce que si on fait l'exode, le risque de se marginaliser est quand même assez grand.
Non, justement, c'est pas ça. Par exemple, je pense à la situation allemande, non, qui a certaines analogies, non, avec la situation hollandaise, non. Oui. C'est évident que vraiment les vieux groupes autonomes, non, oui, ils vivent dans leur squat et autonomes, non, et ils sortent seulement pour faire la manif, pour tout casser et oui, choses comme ça. Ils sont ils se déclarent marginaux. Oui. Ils déclarent soi-même marginaux. Je suis tout à fait contraire à tout ça, non. Moi, je suis contraire. Je suis contraire en réalité, pas seulement au terrorisme, mais aussi à certaines formes d'extrémisme, non. Mm-hmm. Voilà. Et j'espère que le terme exode soit pas, n'est pas fondé sur ça, non. Mm-hmm. C'est fondé sur une idée de projet social, non, grande, voilà.
Ouais. Mais c'est pour un peu concrétiser. Bon, c'est une idée. Évidemment assez abstraite, ou est-ce que vous voyez déjà des noyaux ou des endroits où ça se concrétise,
Mais je vois des expériences, non, voir des noyaux concrétisés, j'ai l'impression que c'est assez difficile. Oui. Mais par exemple, je pense qu'en Argentine ou au Brésil, il y a eu des moments, des moments dans lesquels, par exemple, le rapport entre gouvernement et mouvement ont été des choses vraiment complètement ouvertes. Mm-hmm. Voilà. C'était un peu l'exemplification, si vous voulez, non, de ce qui ça devrait passer, non. Et tout ça, vous voyez, a donné immédiatement une grande force au gouvernement. C'est-à-dire, en Argentine, en réalité, ils ont fait une chose qui était impensable. Ils ont bloqué le paiement du faux de la dette, qui était quelque chose vraiment... on a vu des choses pareilles, certaines fois, un peu partout, non, si vous voulez, non. Par exemple, c'est hors de doute, non, que le mouvement de la paix a eu une importance politique énorme, mm-hmm, non. Pas parce qu'il a gagné, non. Mais c'est vrai que la grande majorité, par exemple, des gens dans l'Europe occidentale et dans l'Europe occidentale, dans toute l'Europe, est absolument contre la guerre. Et ça, c'était un phénomène politique d'une lourdeur, non, d'une pesanteur extrêmement important. Et c'était évident que, par exemple, toute une série de luttes autour de la défense ou de développement de welfare state, non, sont des luttes extrêmement importantes, point de vue, pas pour répéter la vieille formule, la vieille figure du welfare state, mais pour consolider certains niveaux de dépenses publiques, mm-hmm. non, qui sont très importants à la reproduction. Mais le problème, c'est toujours, à travers toutes ces choses-là, de passer dans une manière organisationnelle, non, de construire l'organisation, de construire expérience qui soit expérience d'exode, dans le sens, pas pour aller au gouvernement, non, pas pour aller... Non, pour inventer de nouvelles formes de gouvernement. En Italie, par exemple, il y a eu maintenant une expérience assez, comment dire, fastidieuse dans le rapport avec le parti de la Rifondazione Comunista, non? Où ce parti s'est présenté comme le parti des mouvements. Mmh. Voilà. Sauf que le moment dans lequel il est arrivé à... En jouant l'ingénuité aussi de certains camarades, il est arrivé aux élections, il a exclu le désobédient qui avait gagné un poste parlementaire européen. Après, il a commencé une polémique contre la violence pour aller maintenant, lui, au gouvernement. Mm-hmm. Et pour se faire les mains propres, non? Ce sont tous des choses, ce sont tous des ingénuités, des passages qui ont été utiles de certains points de vue encore, non? Parce que c'est pas, mais le problème, c'est par exemple envers les partis, chez nous au moins, le problème c'est simplement, tranquillement, c'est lui, les partis, s'il veut, comme le syndicat, si le parti veut s'ouvrir au mouvement, il doit être des structures de services. Il doit s'enlever de la tête de commander sur le mouvement. Mmh. Sur le mouvement qui doit ouvrir des espaces de démocratie dans l'institution politique. L'ouvrir, ce n'est pas la longue marche à travers les institutions, des choses comme ça. Non, on n'a rien à faire avec ça. C'est simplement, les partis sont des structures de service. S'il veut être démocratique, il doit être au service des mouvements. Mmh. Et pas seulement des mouvements, des citoyens aussi. Mais ça, c'est un rêve.
J'ai encore peut-être Marie, la multitude n'a pas perdu sa... Est-ce qu'en ce temps, on n'a pas rompu le momentum?
Mais je crois que pas l'11 septembre en soi, mais le processus politique qui s'est ouvert après le 11 septembre a montré une tendance absolument fondamentale, c'est-à-dire que la guerre est devenue la base de la politique. Mmh. Mais est devenue la base de la politique parce que, comme on disait avant, je crois, la possibilité par l'État capitaliste, non, de contrôler, non, d'un point de vue biopolitique, du point de vue du biopouvoir, non, pour contrôler cette nouvelle réalité sociale du travail, est devenue tellement difficile que seulement la réinvention vraiment des solutions, les instruments les plus féroces et les plus basilaires, non, dans la construction de l'État moderne, non, devient fondamental. Ils ont détruit le droit international, ils ont détruit le droit pénal, ils ont détruit toutes les garanties, non, vraiment, des survivances régulières, l'État, le welfare state et tout ça. Et il leur reste seulement vraiment la guerre. Donc la force, mm-hmm. vraiment, l'exercice de la force. Mm-hmm. Sauf que cet exercice de la force, c'est quelque chose de très délicat quand tu n'as pas de choses. Là, c'est un exercice de la force pour la seule conservation, pour la seule répétition structures, des vieilles structures de pouvoir. Donc il y a dans cette utilisation de la force quelque chose de malsaine, mais surtout d'impuissante. C'est ridicule de dire impuissant quand on voit les armées américaines, non, en Irak, mais c'est véritablement impuissante. La résistance est beaucoup plus forte.
Mais est-ce que le 11 septembre n'a pas non plus emmené tout un retour des anciens réflexes du point de vue de l'Empire?
J'ai pas compris, excuse-moi.
Est-ce que le 11 septembre n'a pas non plus amené un retour des anciens réflexes du point de vue de l'Empire, comme des réflexes impérialistes, même des réflexes nationalistes.
Moi, je suis certain de ça. Il a essayé de faire entrer ça. Mais c'était complètement, complètement perdu. Le grand réflexe impérialiste américain, par exemple, aujourd'hui se trouve à le disputer, à être disputé même à l'intérieur des États-Unis. C'est-à-dire, la guerre d'Irak, ils l'ont perdue. Et la guerre d'Irak était l'unilatéralisme américain, non? La monarchie américaine qui voulait agir en dehors des aristocraties, en dehors des multitudes. Mais ils ont perdu. Beaucoup de monde m'a dit quand ils commençaient la guerre, « Ah, regarde, toi, tu disais à l'Empire, salut, à l'Empire, regarde, là, ils vont là. » Bon, ils ont perdu. C'est la réalité de l'Empire qui est imposée. Et justement pour eux et pour nous. Pour eux, parce qu'eux, ils se sont rendus parfaitement compte, non? Qu'aujourd'hui, même si Bush regagne, non, il doit faire la paix avec les capitaux étrangers, les capitaux chinois qui maintiennent la guerre, les capitaux européens qui autrement ils déterminent l'euro comme puissance alternative au dollar, avec en Amérique latine, il doit aller très dans une manière très cautious, non, vraiment très molle. Voilà, ça c'est la situation. Et c'est une situation qui est complètement définie dans les paramètres de l'Empire. Il y aura encore des essais, non? Je vous disais avant, non? Ce n'est pas que l'État-nation est disparu, non? Ce n'est pas que l'impérialisme est disparu. Le problème, c'est que penser en termes d'État-nation et penser en termes d'impérialisme, on n'arrive pas, ni même du point de vue du pouvoir, à gagner.